1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Yann avec vous pour l'émission Le Grand Tout sur Canal B. On est ensemble comme presque tous les jours, du lundi au vendredi, 16h30, 17h40. Une émission qui aujourd'hui vous permettra de retrouver des infos-concerts en fin d'émission et puis aussi les deux albums coup de cœur pour les radios de la Ferra Rock. Avant ça, eh bien, vous aurez pu entendre un nouvel album disque d'or de la semaine, une réédition d'ailleurs. Et puis tout à l'heure, Ronan qui nous parlera théâtre et qui a rencontré Jenny Dodge, co-directrice à la programmation et à la production à l'air libre, et puis Emmanuelle Paty-Lacour qui, elle, est conseillère artistique danse, art du cirque et de la piste, art de la rue et de l'espace public de spectacle vivant en Bretagne. Et toutes les deux vous donneront des raisons d'aller ou peut-être de ne pas aller au Festival d'Avignon. On les retrouve tout à l'heure, mais pour commencer, eh bien, cette belle réédition que nous propose Kuro Neko Records depuis vendredi dernier, c'est l'album Baraka 1980 que sortait en cette année-là, donc 1980, le fameux duo Brigitte Fontaine et Areski Belkacem qui renversait assez régulièrement la table, l'établi de création, et puis nous proposait très régulièrement des aventures passionnantes. C'était le cas évidemment sur cet album, avec un mélange peut-être pop, jazz, rock, quelques influences de la langue arabe sur cet album Baraka. On en écoute ce morceau. Tout le monde se rappelle peut-être de quoi il s'agit. Vous allez pouvoir vous en rappeler grâce donc à cette belle réédition qu'on écoutera à raison d'un extrait par jour, mardi, mercredi et jeudi, puisque vendredi, ce sera une émission spéciale, les festivals Pipe à la Pop numéro 4. Bonne émission.
L'amour, c'est ce que tout le monde sait ce que c'est, sans avoir besoin de faire un dessin. Et même il vaut mieux pas ni le dire en bon français. Quand le ciel est couvert, rien à faire, nous aimons mieux crever plutôt que vivre. Les chefs d'État, ça doit bien les faire rire. Si les prophètes vous embêtent, donnez-leur du lait et du miel. Quand la vie s'installe, elle sait ce qu'elle fait. Quand une tarte est en train, ne posez pas de questions. Si vous fumez, eh bien fumez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du coq à l'âne, il n'y a qu'un pas. Dans un cœur sincère, l'amour entre et sort comme le vent. S'il n'y a pas de tarte entre un fait de soin et nous, alors taisez-vous. Non, disait l'ivrogne, jamais je ne serai convaincu par Dieu. Dans un cœur sincère, l'amour entre et sort comme il veut. Quand je dis non, c'est peut-être. Quand je dis oui, ça m'étonnerait. Quand je dis peut-être, c'est peut-être, peut-être. Quelquefois, il fait si beau que tout est pardonné. Les roses sont un peu invincibles, mais elles ont été élevées comme ça. Les coqs ne dorment jamais, ce n'est pas raisonnable. Quand je dis oui, je ne dis pas non, c'est tout ce que je peux dire. Quand il est trop tard, il ne faut plus s'en faire. Pour le peu que vous avez, ce n'est pas la peine de rester le garder sous la terre. Personne personne n'est personne. L'amour c'est bon quand c'est bien chaud. Si vous ne comprenez plus rien à rien, pensez à autre chose. Quelquefois il fait si beau que tout est pardonné. Les arbres s'arrangent toujours pour faire quelque chose de beau. Quand je dis oui, inutile d'insister. Manger, dormir, ça peut toujours servir. Quand un corbeau crie trois fois, soyez sur vos gardes. Du reste, soyez toujours sur vos gardes, c'est plus sûr. Quand on croit que chaque citrouille peut devenir papillon, il vaut mieux se garer, il vaut mieux se garer. Ne prenez pas vos désirs pour des banalités. Ne faites pas confiance à tort et à travers. Ne vous méfiez pas à tort et à travers. Du reste, ne faites rien à tort et à travers. Si vous vous méprisez, c'est que vous êtes méprisable. De vous mépriser, les chefs d'État, ça doit bien les faire rire. La porte du ciel est plus large que l'univers, mais avec tous ces sacs, on ne peut pas passer. On ne peut pas passer. Je ne sais pas grand-chose, mais c'est quand même mieux que de tout savoir. Quelquefois il fait si beau que tout est pardonné. E égale MC2 pour la vie.
Les plaintes qui s'élèvent jusqu'à Dieu fatiguent inutilement son cœur.
Je n'ai aucun renseignement concernant les libellules. En outre, je ne donne pas de renseignements.
On ne peut pas enfermer tout le monde, c'est déjà fait.
Après le déluge, c'est comme d'habitude.
Apprenez à vous défendre, même si vos amis doivent se moquer de vous.
Ce n'est pas parce que j'aime les oliviers que je n'aime pas les acacias.
Si vous pensez avoir enfin trouvé la solution, eh bien une bonne nuit de sommeil et il n'y paraît plus.
Les chats, ils veulent bien, mais faut pas abuser.
Les églantines sont peut-être formidables, mais ce n'est pas elles qui vont résoudre mes problèmes.
Ralkeg de la pub.
Ce n'est pas parce que j'aime les oliviers que j'aime les acacias.
Si une personne vous admire, vous feriez mieux de vous casser une jambe.
Personne n'est personne.
L'amour, c'est ce que tout le monde sait ce que c'est, sans avoir besoin de faire un dessin. Néanmoins, je ne vous cache pas que ceci est éminemment déconcertant pour un grand public. La lune, dans sa splendeur, est si modeste que si on ne veut pas la voir, on ne la voit pas. Moi, je ne sais rien, alors vous pouvez m'écouter. Si vous croyez que les femmes sont moins bêtes que les hommes, vous n'êtes pas encore au bout de vos peines. Mais quand même, ça se tire. Nous n'avons aucune place, sauf au milieu du monde, qui est partout évidemment. En été, la nature va loin. Les chats, Les chats, ils font la gueule quand il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Moi, je fais tout avec une certaine imperfection. C'est ce qui me permet de rester modeste. La modestie est une qualité merveilleuse. Vous avez remarqué. Du coq à l'âne, il n'y a qu'un pas. N'oubliez jamais la puissance du lavage de cerveau anticommuniste dans les pays capitalistes. N'oubliez jamais la puissance du lavage de cerveau. N'oubliez jamais la puissance, n'oubliez jamais.
Ce n'est pas parce que je parle des oliviers que je ne parle pas de moi. Moi, je peux même me permettre de tomber si vous n'étiez pas au courant. Vous ne seriez pas là. Néanmoins, je ne vous cache pas que tout ceci est déconcertant pour un grand public. Quand une tarte est en train, ne posez pas de questions. La poésie n'a pas de contraire. Si vous ne comprenez pas, je m'en fous. Moi, je peux même me permettre de tomber. Tout est un reflet de tout. La poésie n'a pas de contraire. Il n'y a plus de mais. Mais je peux aussi faire un dessin. E égale MC2 pour la vie.
Extrait de l'album Baraka 1980 par Brigitte Fontaine et Areski Belkacem. C'est notre disque d'or de la semaine. Belle réédition du label Kuroneko, disponible à nouveau depuis vendredi dernier. On poursuit avec la page culture de l'émission Le Grand Tout. Dans la page culture de l'émission Le Grand Tout sur Canal B, nous retrouvons Ronan pour un grand retour. Bonjour Ronan.
Ben oui, c'est la fin de l'hiver, donc je sors.
C'est
en fait.
Ça, tu as hiberné pendant quelques mois,
oui.
On le dira, et tu nous parles de théâtre.
Oui, encore et toujours. Donc voilà une chronique dont le projet remonte à l'automne dernier déjà. Au début, ça devait être une petite carte postale de l'été qu'on venait de quitter. Petite carte postale consacrée au Festival d'Avignon. Et puis, de procrastination en procrastination, c'est devenu plutôt un faire-part, comme une invitation à se projeter dans l'été prochain. Alors quand on tente de joindre un théâtre au début du mois de juillet, on a un peu l'impression d'être au cœur du mois d'août. Personne, le téléphone sonne dans le vide. C'est que les professionnels du spectacle vivant sont au Festival d'Avignon, ce que les Aoussiens sont aux vacances d'été. Et ça m'a donc donné envie d'en savoir un peu plus sur cet événement majeur qui agite chaque mois de juillet les pages culture des grands quotidiens nationaux. En effet, cela reste bien le plus grand festival de spectacle vivant au monde. Mais de quoi ce festival est-il le nom ? Eh bien, c'est pas si simple. Disons que ça démarre en 1947 à l'initiative de Jean Villard. Le Festival d'Avignon affiche dès le départ une volonté de décentralisation. La culture prend ses quartiers d'été dans le sud de la France. Ça, c'est le festival officiel dit le IN. Et ce festival, depuis 2021, c'est le metteur en scène portugais Tiago Rodrigues qui en tient les rênes. Mais à côté du IN, il y a aussi le côté off du festival. Off, cependant fortement institutionnalisé, puisque son existence est rendue officielle dès l'année 1966, et ce off a pris une importance telle qu'il est difficile de le séparer de son frère aîné. Les deux font bien l'événement tous les mois de juillet. En témoignent ces quelques chiffres. Avignon, c'est, pour le IN en nombre d'entrées, c'est 122 000. Pour le off, accrochez-vous, c'est 1 440 000, et ça, c'est la fourchette basse. Pour le nombre de spectacles, pour le IN, c'est 35 spectacles, dont 29 créations. Pour le off, c'est 1666 spectacles donnés par 1316 compagnies. C'est délirant. Pour le nombre de lieux, Pour le in, il en compte une trentaine. Pour le off, c'est 141 lieux de spectacle. Bref, pendant ces 3 semaines, entre le in, sorte de la crème de la création internationale, et la jungle du off, il y a de quoi courir beaucoup et s'y perdre un peu. Alors Avignon, c'est un rendez-vous du spectacle vivant donné pour incontournable, en tout cas pour les professionnels. Et justement, moi j'ai eu envie d'interviewer 2 professionnels du spectacle vivant afin de sonder leur motivation à se rendre à cet événement majeur. On les écoute se présenter.
Je suis donc Emmanuelle Paty-Lacour, je suis conseillère artistique pour la danse, le cirque, les arts de la rue et l'espace public dans un établissement public de coopération culturelle qui s'appelle Spectacle Vivant en Bretagne.
Je m'appelle Jenny Dodge, je suis co-directrice du théâtre L'Air Libre à Saint-Jacques-de-la-Lande.
Alors autant on peut cerner, ne serait-ce que dans sa grande largeur, le métier de Jenny Dodge, co-directrice du théâtre de L'Air Libre, autant il est peut-être nécessaire de préciser quelle est la mission de l'organisme au sein duquel officie Emmanuelle Paty-Lacour. Cet organisme, c'est Spectacle Vivant en Bretagne.
Les compagnies, elles peuvent nous solliciter à plusieurs endroits, déjà en termes d'accompagnement et de conseils sur leur projet de compagnie, déjà, leur parcours, les étapes qui vont jalonner et structurer leur parcours. Et puis, on va aussi les aider, y compris financièrement, à être diffusés dans des théâtres ou dans des festivals au national et à l'international. Notre mission, c'est d'accompagner les équipes, y compris financièrement, à présenter leur spectacle dans des lieux un peu prescripteurs, importants du spectacle vivant.
Et oui, car si l'enjeu pour une compagnie, c'est bien de trouver les sous pour produire sa création, c'est aussi celui de pouvoir la jouer pour un public, évidemment, mais également pour des professionnels qui sont à même de la programmer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la diffusion. Et la diffusion, ça coûte beaucoup d'argent. On dira également d'un lieu qu'il est prescripteur, expression qui peut sembler un peu étrange. On dira de ce lieu qu'il est prescripteur quand celui-ci rassemble un certain nombre de programmateuristes et journalistes susceptibles de programmer ou de se faire l'écho du spectacle. On comprend dès lors l'intérêt pour une compagnie d'aller à Avignon, encore que, et on en reparlera plus tard, cela n'est pas sans risque. Mais revenons-en à Emmanuelle et Jenny. Qu'êtes-vous allé faire à Avignon ?
On a des équipes bretonnes qui ont fait le choix d'aller présenter leur spectacle dans un des lieux de diffusion d'Avignon et qui ont reçu le soutien de la commission d'attribution des aides de spectacle vivant en Bretagne. Donc on va aussi à leur côté dans les lieux. Je retourne voir les spectacles si tant est que je ne les ai pas vus avant. Donc mon rôle, c'est quand même essentiellement d'être auprès des équipes bretonnes. Et puis on travaille beaucoup l'interrégion, donc je vais voir aussi en priorité les équipes des Pays de la Loire et de la Normandie. Il y a une grosse partie aussi du travail qui est de la communication, de parler de ces équipes-là aux programmateuristes qu'on peut rencontrer, qui sont de la région ou pas, pour les inviter à aller découvrir ces artistes bretons que nous soutenons par ailleurs.
Ça permet de mesurer, d'avoir, de prendre le pouls de l'écosystème en France, en tout cas, parce que c'est un festival, certes, c'est le plus grand festival du monde, je sais pas, oui. Aujourd'hui, ce qu'il y a à Édimbourg aussi maintenant, mais ouais, mais toujours. Et mais c'est quand même beaucoup fréquenté par les professionnels français et françaises. Donc ça me permet de prendre ce pouls-là, voir qui est là, qui produit quoi, qui coproduit quoi, qu'est-ce qui fait effet cette année, ce après quoi les pros courent, ou ce sur quoi les pros crachent. Ça, donc c'est plus, voilà, pour de manière plus globale. Et après, c'est faire mes rendez-vous. Faire des rendez-vous, parce que même si on rigolait en disant boire des verres, et même si c'est vrai, on fait ça aussi, la fête et tout ça, c'est aussi une manière de mieux connaître d'autres professionnels, de faire des rendez-vous, de tenter de nouvelles coopérations sur le territoire national. Et où, parce que moi je travaille pour un théâtre, mais aussi pour une compagnie, enfin je suis conseillère plus côté compagnie pour le Joli Collectif, pour Vincent Collet. Donc ça peut aussi être une manière d'aller faire des rendez-vous pour ses propres projets à lui. Soit avoir des idées de lieux où on pourrait s'adresser parce que j'ai vu ces personnes-là, je les ai croisées à Avignon, soit carrément de faire un vrai rendez-vous dédié à son projet. Et ensuite, parce que c'est peut-être le plus évident, c'est d'aller voir des projets que je pourrais programmer à l'air libre.
Il y a des côtés très informels et il y a des temps de rencontres professionnelles, alors souvent organisés par exemple par l'ONDA, ou par le ministère, et puis des temps de rencontres plus informels. Nous, on a pu, par exemple, faire une soirée, les 5 agences de la collaborative, on a organisé une soirée à la Syrie où on a convié les artistes programmés au festival et les lieux de programmation qui étaient sur place à venir échanger autour d'un verre de manière informelle. Et nous, notre mission à cet endroit-là, c'est de faire du lien aussi entre les gens.
Évidemment, chacune, que ce soit Jenny ou Emmanuel, répond de son endroit selon sa fonction. Mais il y a quand même des éléments récurrents. Moi, j'ai retenu qu'on y boit des coups. Ça, c'est l'expression de Jenny. Ou des verres, ça, c'est pour Emmanuel. Et le rosé piscine, finalement, ça n'a pas l'air si accessoire que ça en ces jours de grande chaleur. Plus sérieusement, Avignon, pour un ou une professionnelle, c'est un gigantesque forum du spectacle vivant. On y va pour s'y faire voir, c'est-à-dire donner à voir les créations que l'on soutient. On y va aussi pour nouer des collaborations, projets, partenariats. Et puis, on y va aussi pour voir les créations des autres compagnies. En ce lieu, tout se tient au même moment. C'est un précipité, un concentré. C'est donc l'occasion immanquable de prendre le pouls des grandes tendances. On pourrait presque dire qu'Avignon, c'est un festival qui fait salon, comme celui de l'automobile, ou de l'agriculture, ou des arts ménagers. Je ne sais pas si ça existe encore, ça, les arts ménagers. Bon, le rapprochement est peut-être un peu risqué, mais je le tente et je l'assume. J'ai longtemps pensé qu'en tant que directrice de théâtre, on allait faire son marché à Avignon pour nourrir la programmation de la saison à venir. Alors c'est un peu vrai, mais c'est en fait un peu plus nuancé et c'est Jenny qui nous apporte quelques précisions.
Ouais, dans le meilleur des cas, un ou deux en fait.
D'accord.
Mais après, un ou deux directement, parce qu'après, ce que ça va servir, c'est qu'on va se poser des questions avec Vincent, donc avec qui je coprogramme, parce qu'on est deux à programmer, sur tel ou tel artiste qu'il faut suivre. Et qu'on suivra peut-être l'année d'après, ou qu'on accueillera en résidence. Là, je parlais vraiment d'un point de vue très primaire de « j'ai vu ce programme », quoi. Là, c'est un max ou deux max. Mais sinon, les découvertes artistiques de parcours et qu'on va se garder dans un coin de la tête et qui va ressortir on ne sait pas quand, ou on ne sait pas sous quelle forme, si c'est un accompagnement voilà, en prod, en coprod, ou ça, il y en a plein et c'est difficilement quantifiable.
Voilà pour les motivations professionnelles. Mais évidemment, c'est compliqué de les dissocier complètement des motivations personnelles qui amènent à se rendre à cet espace-temps d'exception. Faites du spectacle vivant, faites tout court, mais où, de manière surprenante, surgit parfois un brin de mélancolie.
Au niveau personnel, c'est aussi mon rendez-vous annuel avec tous mes anciens, anciennes collègues, pour être très honnête. C'est au niveau personnel, on a dit. Et comme j'ai travaillé dans 4 théâtres maintenant, différents, je sais que je vais croiser différentes collègues ou artistes avec qui j'ai travaillé. C'est un peu le rendez-vous de tous les possibles et des croisements vis-à-vis de ce passé-là, de ce passé professionnel-là.
Avignon, c'est une sacrée effervescence professionnelle et populaire, mais populaire au bon sens du terme, c'est-à-dire il y a des habitants à Avignon, il y a des touristes, il y a des gens amateurs de théâtre qui viennent manger du spectacle, voilà. Et donc moi, c'est ça qui m'a plu, c'est faire partie de cette effervescence-là.
Et ensuite, au niveau professionnel, ça va croiser, enfin, au niveau de spectatrice plutôt, pardon, ça va croiser deux envies. De voir des spectacles que je peux pas voir ici pour différentes raisons, parce qu'ils sont pas programmés, parce que souvent c'est plutôt de l'international, par exemple, ou des choses, ouais, très inédites ou très rares. Et à l'inverse, des choses que je peux voir ailleurs, mais je profite de les voir à ce moment-là pour croiser les différentes perceptions des uns des autres, les différentes réceptions. Et Avignon, si en tant que spectatrice, moi je sais que j'avais tendance à dire ça à un moment donné, c'est tout ce qu'on refuse pendant l'année qu'on accepte à Avignon. Par exemple, les spectacles qui durent des plombes, la navette à prendre sans clim alors qu'il fait 35 degrés pour aller on sait pas où, on n'a même pas fait gaffe à où c'était sur la carte. Ouais, ce genre d'activité de spectateuriste qu'on pourrait, mais souvent on les refuse parce qu'on a la flemme, on a notre vie, tout ça, on a notre quotidien. Bah, Avignon, c'est l'occasion. Pour moi, c'est comme ça que je perçois les choses à Avignon. Voilà, en tant que spectatrice au niveau perso.
Et après, j'avais aussi la sensation d'être en permanence entre solitude et sollicitation permanente. Parce que solitude, ben, chacun fait son parcours de spectacle en fonction de ce qu'il doit voir et de ce qu'il souhaite voir. Donc moi, je décide les spectacles que je vais aller voir seul. Des fois, j'y retrouve des collègues ou des connaissances. Des fois, non. Et en même temps, t'es entouré d'une telle foule qui est là pour voir du spectacle vivant que t'as pas l'impression d'être seul. Et puis, sollicitation permanente, parce que sollicité par les équipes qui font les parades dans la ville, sollicité par les équipes bretonnes ou d'autres régions, sollicité par des programmateuristes, parce que c'est le moment où il faut aussi, où on peut échanger sur notre secteur professionnel.
Il y aurait donc à Avignon des choses qu'on ne ferait pas ailleurs. On s'y accorde le temps de faire des exceptions dans ses habitudes de spectateur pour quelques spectacles évidemment hors normes. Pensez donc, en 2016, Julien Gosselin signait la mise en scène de 2066, adaptation de l'écrivain chilien Roberto Bolaño, pour une durée de 12 heures. En 2020, c'est Thomas Joly qui bat le record avec son Henri VI, qui a duré pas moins de 18 heures. Et cette année encore, peut-être pourrait-on se laisser tenter par les 8 heures du Soulier de Satin, créé par Eric Ruff. Alors le Soulier de Satin, c'est quand même 5 récompenses au dernier Molière. Pour tous ces spectacles, évidemment, on est au cœur du in. Ça se passe souvent dans la cour d'honneur du Palais des Papes.
Chaque année, Piero Rodriguez, le directeur du Festival d'Avignon, non seulement invite des spectacles, des compagnies, mais aussi une langue. Là, c'était l'arabe à l'instant.
Oui, après avoir invité l'anglais, l'espagnol, oui, la future édition sera consacrée à la langue arabe, d'où ce choix.
Taxi, kebab et le morceau tabla. On poursuit cette chronique qui vous donnera peut-être envie d'aller faire un tour dans le sud, à Avignon.
Ou peut-être pas.
C'est pas sûr.
Pendant 3 semaines, le festival concentre tout le bruit et la fureur du spectacle vivant. Et ça peut être aussi une épreuve, un marathon à gérer.
Moi, je vois entre... Alors, je me suis calmée cette année, mais entre 4 à 6 spectacles par jour. Et puis, Avignon, bah, c'est petit, mais c'est grand quand même. On marche beaucoup, il fait chaud... Donc voilà, j'ai appris qu'il fallait que j'y aille avec de bonnes baskets.
En vrai, à Avignon, je reste 3 jours, généralement 4 jours, parce que c'est too much, quoi. Tout est too much, tout est exacerbé. Donc c'est ça que je pourrais détester au bout d'un moment. Et le show-off, ouais, ça, c'est assez détestable au bout d'un moment.
Depuis 2 ans, il y a eu aussi, il y a beaucoup moins, à ce qui paraît, ces côtés affichage sauvage, tract, où la ville était complètement noyée sous ces affiches placardées partout. Et donc moi, j'ai pas vécu ça, mais quand même cette surenchère à aller voir des spectacles, les compagnies qui cherchent par tous les moyens à attirer ton attention dans la rue. Je sais pas s'il existe d'autres moyens, mais moi, ça me questionne et ça peut me mettre mal à l'aise.
Et juste à la fin de la journée, ton sac est rempli de tracts et tu sais pas quoi en faire. Enfin. Et puis du coup, ça trompe non seulement pour les autres compagnies, mais ça trompe aussi les publics. C'est que tu peux vraiment voir de la... Enfin, pardon, mais tu peux vraiment voir de la merde, ouais, quand même. Et après, à la fois, c'est génial parce qu'il y a tout, et à la fois, c'est très bizarre en termes de lisibilité.
Et oui, c'est souvent la critique qu'on entend au sujet du Festival d'Avignon. C'est que dans la chaleur provençale, le ou la festivalière peut vite être sursollicité au point de se perdre dans une profusion totalement illisible. On parle ici bien sûr du Festival Off. Il n'est que voir le programme de l'édition à venir qui recense pas moins de 556 spectacles, parmi lesquels j'ai noté quelques pépites, autant par le visuel des affiches que par le titre. Par exemple, Les femmes sont parfaites, Les hommes font ce qu'ils peuvent, Cupidon est un con, Toc chef, ou pour finir, Même les cons ont droit au bonheur. Et la liste est loin d'être close. Le Off, bien qu'institutionnalisé, préfère, c'est certain, la quantité à la qualité. Et l'on a intérêt, si on veut le fréquenter, à se prémunir de quelques repères. La première des précautions à prendre, c'est donc de se référer au choix des lieux qui accueillent les spectacles. Conseil d'Emmanuel.
Il y a deux endroits dans le Off. Et c'est ça aussi que nous, on accompagne. Pourquoi on accompagne des équipes et pas d'autres ? La première chose qu'on regarde quand elles nous disent qu'elles veulent aller à Avignon, c'est à quel endroit elles vont se produire. Parce qu'il y a des lieux à Avignon qui ont une ligne, ce qu'on appelle une ligne artistique, et qui choisissent artistiquement les spectacles pour ce qu'ils racontent, pour comment ils le racontent. Déjà de voir si la compagnie elle est structurée, si elle a l'air insolite pour y aller, et qui propose aux compagnies un vrai accompagnement, y compris en technique, y compris en communication, y compris en presse et tout ça. Et puis après, eh ben, y a des lieux, la seule chose, c'est qu'ils louent un espace et c'est tout. Sans regarder la proposition qui est faite dedans. Donc j'allais dire, qui veut présenter du théâtre, du théâtre du spectacle à cet endroit-là, peut le faire, quelle que soit la qualité et l'exigence de la présentation.
Alors on va en citer quelques-uns de ces endroits. On pourrait penser à la Manufacture, on pourrait penser également au Théâtre des Halles ou encore celui du Chêne Noir, entre autres. En général, ce sont des théâtres permanents qui ont non seulement le souci d'avoir une ligne éditoriale, comme le disait Emmanuel, mais qui ont également le souci de l'accueil des compagnies. Ce qui est loin d'être le cas pour nombre d'autres endroits qui s'improvisent lieu de spectacle pour l'occasion. Il n'est que voir certains commentaires sur Internet, ça balance pas mal. Et c'est là que se formule la principale critique à l'égard du Festival d'Avignon, on parle encore du Off évidemment, c'est que pour les compagnies, l'opportunité qu'il représente peut s'avérer relativement dangereuse. Avignon, c'est aussi un peu l'abattage.
Je sais aussi combien c'est compliqué pour des équipes d'aller à Avignon. Alors c'est vrai que celles qui sont accompagnées par spectacle vivant, c'est un sacré levier quand même, et c'est une sacrée aide, mais c'est pas la majorité.
Ce que je déteste politiquement et ce qui me rend folle, c'est comment des compagnies peuvent en crever d'aller à Avignon, en fait, que c'est pas qu'une vitrine. C'est comment c'est cher pour une compagnie d'être programmée. Et que si elle n'a pas une aide de la région, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup pour les Pays de la Loire, pas pour la Bretagne, mais notamment, il y a beaucoup de régions qui prennent certains lieux et qui mettent toutes les compagnies de leurs lieux qui les rendent visibles à cet endroit-là. Bah ça, je trouve ça détestable. Je trouve ça hyper dur.
Et donc, toutes les compagnies qui louent des théâtres, alors, c'est pas que des théâtres, c'est souvent des lieux qui deviennent des théâtres pour la période d'Avignon, à des prix presque scandaleux, les équipes qui vont là-bas, elles se mettent en danger financièrement, elles mettent en danger la vie de leur structure, et ça me questionne quand même. Et puis certaines conditions de travail sont difficiles, elles ont très peu de temps pour monter leur décor, ça joue tout de suite après, il faut démonter pour laisser place à l'autre, elles sont épuisées à la fin, les équipes.
Alors pourquoi c'est cher pour une compagnie ? Eh bien, il faut savoir qu'à Avignon, une compagnie doit payer pour jouer et doit tout payer. Les frais de transport, de logement et évidemment la location d'une salle. Ça, c'est valable pour l'ensemble des lieux du HOF. Mais les tarifs, les conditions d'accueil, de montage, de démontage, de représentation sont extrêmement variables de l'un à l'autre. Parfois, ça confine à l'indignité totale. Et s'il existe des vendeurs de sommeil, eh bien, on peut dire qu'il existe aussi des vendeurs de plateaux. Aller à Avignon, c'est un budget considérable, c'est au moins 40 000 euros pour une petite compagnie. C'est donc un pari qu'elle fait. Ce qu'espère une compagnie faisant ce choix, bah c'est bien un retour sur investissement, à savoir se faire connaître et être programmé. Mais ça reste un pari très dangereux, car elle pourrait bien y laisser sa peau. Au point que dans une tribune publiée dans Le Monde en 2021, tribune retentissante, rédigée par un collectif de comédiens et pas des moindres, Irène Jacob, Agnès Jaoui et Jean-Michel Rips, on a pu lire qu'Avignon pouvait être le fruit d'un impensé depuis de ses débuts, fonctionner sans gouvernance, sans régulation et selon les lois du marché. Quand le rêve tourne au cauchemar et que le temps du théâtre, qui devrait être celui de l'utopie, devient parfois dystopique. Ultime question posée à Jenny et Emmanuel, ce festival d'Avignon est-il toujours un rendez-vous incontournable pour les professionnels? Évidemment que la réponse, c'est oui, mais en même temps, non. Oui, mais non.
Je suis pas sûre que ça l'ait autant que ça l'ait pu l'être il y a quelques années, parce qu'il y a aussi d'autres endroits aujourd'hui où on peut découvrir des formes différentes et rencontrer des artistes. Après, oui, par l'expérience que ce festival propose, ça reste un endroit unique. Et puis, c'est aussi le moment où on prend le temps de l'interconnaissance, de la connaissance, et puis de sentir comment... c'est un baromètre à un instant T de la création et du secteur tout en entier, parce qu'il y a quand même des rencontres professionnelles sur des thématiques. Enfin, voilà, on... Donc oui, mais je voudrais pas que ça reste le seul. Enfin, je voudrais pas. Pour moi, il faut pas que ce soit le seul endroit fréquenté par les programmateurs et les professionnels.
Ben je sais plus. J'aurais dit oui avant, mais je suis plus sûre. Après, depuis que c'est Thiago Rodriguez, ça dépend des directions. Quand c'était Olivier Py, moi j'avais après chacun ses goûts, hein. Mais j'avais une certaine lassitude et aussi parce que j'avais pas l'impression que j'allais voir des choses inédites ou que j'allais pas pouvoir voir le reste de l'année quand j'allais rentrer, quoi. Et du coup, je commençais à me dire, bon, est-ce que vraiment... Ben ça, je parle du in, hein, bien sûr, j'entends bien que le off... Et j'ai l'impression que le off, tu peux voir les choses... J'ai l'impression que souvent, c'est soit des projets, parce que justement, cette économie dont on a parlé, qui est compliquée pour les compagnies, bah du coup, on mise sur des projets qui fonctionnent déjà, donc on peut déjà avoir vu sur d'autres festivals. J'ai l'impression que c'est plus intéressant, même si c'est plus fastidieux, du coup, faut bouger plus régulièrement, mais je pense que c'est important en tant que professionnelle programmatrice de le faire, d'aller à différents festivals plus locaux, régionaux, qui ont un rayonnement national tout au long de l'année. Pour le off, pour moi, me semblerait suffire. Après, ça reste incontournable parce qu'on a tous nos vies et nos structures à faire tourner, donc on peut pas se déplacer tout faire que ça, en fait, être tout le temps parti sur un festival, on pourrait presque. On peut pas, donc ça reste incontournable pour se rattraper, quoi, un petit peu.
Voilà un bref aperçu du Festival d'Avignon, dont nous avons exploré grâce à Jenny et Emmanuel, qu'elles en soient remerciées, quelques versants, des plus brillants aux plus sombres. Et pour autant, le Festival d'Avignon, ça vaut sûrement le coup d'être tenté. Mais pour que l'expérience soit réussie, il faudra la préparer, savant dosage entre anticipation et improvisation. Ultime conseil d'Emmanuel.
Bon, déjà, le conseil d'y aller, parce que c'est vrai que c'est une aventure. Quand même, c'est une aventure, c'est une belle expérience. Moi, je dirais de préparer son séjour à Avignon, déjà en termes de parcours de spectacle, repérer où des lieux, justement, où la programmation à l'année... t'intéresse, ou des compagnies, ou des thématiques, des choses comme ça. Donc de préparer un peu les choses, parce que quand on arrive, c'est une jungle, faut pouvoir se repérer, on te donne un catalogue qui fait 300 pages, c'est pour commencer, pour regarder. Donc c'est préparer son parcours de spectacle, mais aussi se laisser des espaces dans son emploi du temps pour une découverte impromptue, une rencontre avec une compagnie, une terrasse de café, ou le bouche à oreille aussi qui fonctionne bien, et se dire bah tiens, finalement, pourquoi j'irais pas voir ça. Et des temps de respiration, trouver le temps de respiration. Il y a aussi des très beaux théâtres qui sont hors les murs d'Avignon. Moi, j'ai adoré prendre le temps d'aller à Villeneuve-les-Avignon, à la Chartreuse, qui était en dehors de ce bruit, Et voilà, l'abbaye est très belle, j'ai pris un temps autour des oliviers et après j'ai pu replonger dans les spectacles là-bas, quoi.
Bien sûr, avec ces informations, ces mises en garde de celles qui vous parlaient à l'instant, vous ferez votre choix, vous irez peut-être faire un tour à Avignon. C'est quand cette année, Ronan ?
Eh bien, c'est du 5 au 26 juillet.
Y vas-tu ?
J'ai pas les capacités, les compétences pour anticiper, voilà.
Si vous restez dans la région en août, vous pouvez aller faire un tour à Aider peut-être.
Oui, à cet excellent festival qu'on a déjà chroniqué pas mal ici, c'est Bonus, hein, ça ce sera du 22 au 24 août prochain, un petit festival qu'on vous recommande évidemment chaudement.
Et nous verrons si vous le vivrez à l'antenne de Canal B ou pas, mais on y réfléchit en tout cas. Merci beaucoup Ronan, à bientôt.
Et à bientôt.
Et à très bientôt j'espère.
Oui.
Dans la session info-concert du Grand Tout sur Canal B, j'évoquerai ce qui se passe en ville vendredi soir. Je le sais, sur Canal B, on vous parle beaucoup du festival Pipe à la Pop numéro 4 proposé par Dépêche-Icaille au Jardin Moderne. On vous encourage à y aller, mais si toutefois vous préfériez rester en centre-ville, eh bien vous pourriez aller par exemple au Marquis de Sade. Alors on est un petit peu hors du centre-ville, mais pas très très loin, rue de Paris, avec cette soirée Mourir Bête qui invite Orchestral et Théo Schrotter. Et puis le même soir, toujours vendredi, vous pourriez être tenter d'aller découvrir les Blats au Melody Maker, invités par l'effroyable association sataniste des soviétiques de l'Ouest. On commence directement par Orchestrol, un duo de Montréalais, Jesse Osborne Lantier et Azael Richard Robitaille, cofondateurs du label Apparent, qui ont travaillé avec notamment Bernardino Femminelli, Marie Davidson ou encore Essepa. Musique électronique hybride, ambiance drone, parfois ambiante, néo-folk ou même new age. Nous écoutons ce titre Rust Halo par Orchestral. Ça sera enchaîné avec un titre de Théo Schrotter, escapade en solo pour cet ancien membre du Nestor Makhno et d'Island Inn. On écoutera tout à l'heure une électronica synthétique qui va du côté du dub, du trip-hop. On écoute pour commencer Orchestral et juste après Théo Schrotter, à retrouver donc vendredi 13 juin au Marquis de Sade grâce à Mourir Bête. extrait à l'instant sur Canal B d'un titre de Théo Schroeter, Les rêves des autres, à retrouver invité par Mourir Bête vendredi soir au Marquis de Sade avec aussi Orchestrol. On termine la session Info Concert avec un autre événement qui lui aussi se déroule ce vendredi 13 juin. Vous aurez l'occasion de retrouver un cover band des Beatles avec les membres décédés des Beatles, oui, entre Indus, Power Electronics, Experimental Spoken Word. Tout ça est tout à fait curieux et vous allez entendre une reprise comme vous n'en avez jamais entendu. Même les Residents n'ont pas fait des choses aussi bizarres. Peut-être une reprise des Beatles. Donc vous retrouverez Blatz avec aussi Aventure vendredi soir au Melody Maker grâce à l'effroyable association sataniste des Soviétiques de l'Ouest.
I am he, as you are he, as you are me. And we are all together. I am he, as you are he, as you are me. And we are all together. As you are he, as you are me, and we are all together. I am he, as you are he, as you are me, and we are all together. Together.
reprise pour le moins étonnante des Beatles, avec des nappes modulaires qui sont placées sous les textes des Beatles. Ce sera joué par Blatz vendredi soir au Melody Maker. Vous retrouverez aussi Aventure. Nous, on termine l'émission maintenant avec quoi ? Eh bien, les découvertes Ferrarock de la semaine. Dans un instant, vous allez entendre un extrait de l'excellente EP des Roberta Lips, paru par le Sep Records. C'est entre garage, pop 60s, un côté punk rock aussi, avec quelques petites évocations des Runaways, de Nicky and the Corvettes. Il y a aussi des ambiances un peu Riot Girl, et puis de l'indie pop espagnol des années 90, comme vous l'entendrez dans un morceau intitulé Nueve Meses. Et puis juste après, vous entendrez Half Asleep et l'album The Minutes Hours, les heures minutes, une nouveauté du label Humpty Dumpty Records, sixième album pour Half Asleep, complètement étonnante cette rencontre entre jazz, post-punk, pop aussi. Écoutez donc tout à l'heure un long morceau intitulé Midnight Sim et retrouvez toutes les infos autour de ces deux albums sur ferrarock.org. Nous, on se retrouve mercredi pour une nouvelle émission Le Grand Tout sur Canal B. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.
Character one.
Introducing the characters.
Character one.
The sleeping next to.
Character two.
Head resting against the bedstand. Reading.
Chapter one. Chapter two. Chapter three. Chapter four.
When suddenly admit.
Chapter five.
Paragraph 15.
Surrender 55.
A faint click. And the bedroom goes dark. That was a time I was reminiscing of character three on the church's front steps.
Truth, I might never come back. For you know me, don't know.